Pour ceux qui n'étaient pas là, et d'ailleurs même pour ceux qui étaient là, on va faire un petit récap pour voir l'enchaînement de la pensée de Paul, pourquoi il est en train d'aborder ces sujets avec Tite. Il commence en rappelant de qui il a reçu cette bonne nouvelle, d'un Dieu qui vient mourir à la place de ses sujets, d'un roi qui se donne pour ses sujets. Et ça, c'est les versets 1 à 4 du premier chapitre. Et il parle de l'importance de la prédication, de la proclamation de cette bonne nouvelle. C'est cette proclamation qui, tous les jours de notre vie, c'est cette bonne nouvelle qui est expliquée ici, qui tous les jours de ta vie, de ma vie, vient m'aider à mieux comprendre la volonté de mon roi. Parce que tout autour de nous contient des messages qui sont à moitié vrais, à moitié faux. On doit discerner entre ce qui est effectivement vrai dans ce que nous dit le monde et ce qui est complètement erroné, ce qui était à moitié erroné. Et c'est la bonne nouvelle, l'évangile qui nous est proclamé, qui nous est annoncé, qui nous est confié dans la Bible, qui nous aide à savoir la volonté de notre roi. Et ensuite, premier pilier à mettre en place, à partir du verset 5, Paul va parler de l'importance de bien choisir son équipe pastorale, ses anciens, ses responsables dans une église. Et pas mal été surpris de voir qu'en fin de compte, les critères sont à la fois exigeants et pas aussi exigeants que souvent on a l'impression. En fait, ils présentent ce que chaque chrétien devrait être comme la norme pour l'équipe pastorale. Irréprochable, on le prend souvent comme un mot qui est hors de notre atteinte, mais c'est irréprochable dans cette liste, irréprochable dans ces critères. Et donc, on était arrivé au verset 10. Et ça, c'était dimanche dernier, on avait vu qu'une des raisons pour lesquelles les anciens doivent être qualifiés pour enseigner et vraiment connaître cette bonne nouvelle, c'est parce qu'ils doivent être capables de reprendre ceux qui s'opposent à la bonne nouvelle, que ce soit de façon claire ou que ce soit de façon sournoise et détournée. Et parfois, il va falloir, pour le bien de la communauté, parler franchement, reprendre clairement ceux qui vivent ou qui enseignent en contradiction à la grâce que Jésus nous offre. Et on arrive au chapitre 2, et B. Mélodine, c'est la star, la pauvre. J'ai oublié de demander si vous m'entendiez, mais... Et on arrive maintenant à notre chapitre 2, et je veux surtout que vous remarquiez l'enchaînement qui est super important au verset précédent, avant notre chapitre, au verset 16. Ceux qui enseignent un faux évangile, ceux qui croient, qui enseignent autre chose, ceux qui sont en train de se détourner de la seule bonne nouvelle qui peut les sauver, Paul dit qu'ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne, ou incapables, dans beaucoup de traductions, pour la moindre œuvre bonne. Et Tite met un gros, Paul, dans sa lettre à Tite, met un gros accent sur l'importance d'une vie transformée. Et on arrive là-dessus avec le chapitre 2. Et on va voir l'importance d'une vie transformée. Donc je propose 3 points. Je prie pour nous. Mais les 3 points vont être la transformation dans le christianisme et les autres religions, parce que vous allez voir que c'est complètement différent. Même si toutes les religions semblent s'intéresser à la transformation de la personne. Deuxièmement, on va voir ici le plan de Jésus pour ta transformation, pour ma transformation, pour notre transformation à tous. Donc son plan global. Et ensuite, et vous allez comprendre, c'est pour ça qu'on fait en 2 parties ce message, on va commencer à prendre les instructions spécifiques pour notre transformation. Et on ne va pas pouvoir prendre toutes les instructions spécifiques. Donc on va faire la moitié aujourd'hui et la moitié la semaine prochaine, dans 15 jours. Je vais prier pour nous. Père, s'il te plaît, aide-nous ce matin à entendre ce que tu es en train de nous dire à travers ta parole. Aide-nous, s'il te plaît, à être humbles, à être conscient de nos faiblesses, à être conscient de notre péché, à ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et s'il te plaît, agis en nous, transforme-nous. Ouais. Fais quelque chose de magnifique dans nos vases d'argile, dans nos vies faibles. Agis, s'il te plaît, pour ta gloire. Agis pour notre joie suprême. Agis pour notre bonheur éternel, s'il te plaît. On demande tout ça au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Alors, si tu t'es intéressé à n'importe quelle religion ou si tu es de n'importe quelle religion, je pense qu'on est tous d'accord de dire que ce qu'on croit, ça se voit. Ce qu'on croit se voit. La doctrine affecte la vie. Et donc, c'est pour ça, au verset 1, Paul dit, quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Il n'est plus en train de maintenant parler de ce qu'il faut croire. Il est en train de dire, maintenant, exhorte à ce que les gens vivent une vie qui montre ce qu'ils croient. Et ça, on le voit dans toute la vie de tous les jours. Hein. Si tu as peur de l'avion, tu prends rarement l'avion. Si tu crois que l'avion est dangereux, ça affecte ta vie. Si tu crois que les jeunes sont des délinquants et que la France est les choses sont de pire en pire en France, bah, tu fermes tes volets à 5 heures du soir, même s'il fait encore jour. Parce que tu as peur. Ta croyance affecte ton comportement, ta vie. Ce que tu crois se voit. Et ici, l'apôtre Paul, on va lire les premiers 10 versets, montre à quoi devrait ressembler la vie d'un croyant. Donc on peut vraiment affirmer sans problème que le christianisme biblique est intéressé par la transformation. Mais ce serait dangereux de s'arrêter là, donc on va pas s'arrêter là. Mais le christianisme biblique s'intéresse à ta transformation. On va lire versets 1 à 10. « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine, dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, d'être pleines de bonté et de se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, d'intégrité, que ta parole soit saine et irréprochable afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. La plupart des religions, et même des non-religions, seraient d'accord avec les versets 2 à 10. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Et même peut-être, sans connaître le christianisme, tu es plutôt d'accord avec cette liste. On doit vivre des vies bien. Beaucoup, beaucoup de Français pensent que c'est ça. Ce n'est pas l'objectif de la vie, en tout cas, ça fait partie d'une norme de la vie. On doit être des gens bien. Et tu interroges la plupart des Français, ils ont la même réponse. Et peut-être que c'est ta réponse. Je ne suis pas parfait, mais je suis quand même quelqu'un de bien. Je ne suis pas parfait, bien sûr, personne n'est parfait. Mais franchement, si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. Et donc, qu'on prenne le bouddhisme, qu'on prenne l'islam, qu'on prenne le judaïsme, le shintoïsme, l'hindouisme, l'agnostisme, l'athéisme, ou même le je-mélange-touisme, une religion bien française. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation de Chesterton, un catholique anglais qui était très très marrant à lire sur plein de points et parfois bien bien tranchant. Et lui, il parle de cette religion, de mélanger un peu de toutes les religions. Il dit, mais depuis quand est-ce qu'en mélangeant tous les fonds de bouteille en pharmacie, on trouve un remède contre le cancer? Enfin, voilà, mais c'est très très français. Et je suis désolé si c'est peut-être tu dis ouais, c'est vrai que je suis un peu bouddhiste, et un peu New Age, et un peu catholique, et puis tu mélanges un peu tout. Toutes ces religions, toutes ces croyances, au final, vont dire oui, c'est bien d'être bien, c'est important d'être bien. Mais le christianisme va beaucoup plus loin et offre une motivation complètement différente. Et on l'a dans la suite du texte. On va lire la suite qu'on a lue au tout début de ce matin. En effet, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dans la plupart des religions, il y a un accent qui est mis sur l'effort, sur le progrès personnel, le développement personnel, si tu veux utiliser un mot qui est partout à la mode en ce moment. Il y a un gros accent là-dessus parce que on constate qu'on n'est pas comme on voudrait être. Mais comparé à toutes les autres religions, le christianisme biblique, celui qui est révélé dans ce livre, ne nous présente pas comment nous approcher de Dieu, mais comment Dieu s'est approché de nous. Pas comment faire plus d'efforts pour espérer que Dieu soit clément, mais comment Dieu nous rachète, Dieu nous pardonne, et donc, en réaction, en réponse, on veut être transformé. Si vous voulez, c'est un peu l'image d'une personne. Une fois, on imagine une jeune femme, esclave depuis des années, elle est née dans l'esclavage, elle est la propriété d'un fermier, mais complètement abusif, qui l'a fait travailler nuit et jour, elle n'a rien pour manger, elle est affamée, elle est malheureuse, et cette femme essaierait de se quand même bien se présenter pour les étrangers qui passent, pour attirer l'attention. Et donc elle essaye de se laver les cheveux, elle essaye de mettre des beaux vêtements, mais elle n'a rien de beau. Elle n'a pas d'eau propre, elle n'a rien pour changer son aspect, elle est esclave, elle est misérable. Et je suis désolé, la Bible présente toute religion en dehors de Jésus comme étant ça. On est dans la boue, on est des esclaves et on essaie de se rendre beau, de se rendre belle avec de l'eau boueuse, essayer de laver nos cheveux avec de la saleté. Et le christianisme présente une autre perspective. C'est un roi qui, par amour, vient et il nous rachète notre esclavage. Il nous rachète et il nous fait venir dans sa cour. Et tout d'un coup, on a accès à l'eau potable, on a l'accès à tous les plus beaux habits. Et ce n'est pas parce qu'on va commencer à se laver, et ce n'est pas parce qu'on va commencer à bien s'habiller, que tout d'un coup, on va être acceptable pour le roi. Non, il est venu jusqu'à nous, il nous a choisis. Avant même qu'on soit propre, avant même qu'on soit aimé, aimable, avant même qu'on soit acceptable, il nous a choisis. Et donc tout ce qu'on fait après ça, ce n'est pas pour gagner son approbation, c'est par réponse à son action, à son rachat, à son amour. On veut enfin se comporter comme on se comporte dans la cour du roi. On veut être parmi les autres qu'il a rachetés. Et donc on veut être bien habillé, on veut pouvoir sortir avec les cheveux propres, on veut pouvoir se mettre à table et être heureux et ne pas être conscient de nous, qu'on détonne du reste. Mais à aucun moment est-ce que le christianisme biblique dit « fais des efforts pour que peut-être tu sois sauvé, fais des efforts pour que peut-être Jésus te regarde ». Et donc c'est un test. Si tu penses que c'est parce que tu fais des choses bien que tu es chrétien, ou que Dieu sauve parce que quand même Dieu va sauver quelqu'un parce que quand même il fait des efforts, tu n'as pas encore compris le véritable évangile qui dit, verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » D'abord il rachète et le but, son plan, c'est effectivement qu'on soit purifié, qu'on soit zélé pour une vie transformée, pour de belles œuvres, comme il dit dans le texte. Mais d'abord, il nous rachète. Et si tu n'es pas passé par cette case-là, de confesser ton péché à Jésus et dire « Sauve-moi, s'il te plaît, parce que je ne peux pas me sauver moi-même. » Si tu n'es pas passé par cette case, tu es encore dans la boue du péché. Que ce soit une religion, que ce soit une philosophie, ou que ce soit une incroyance complète, tu es encore dans la boue de ton péché. Et tu as besoin d'abord d'être racheté par la mort de Jésus pour tes fautes. Et si ce n'est pas encore le cas, vraiment, je te supplie, je t'en supplie, crois en Jésus. Crois ce qui est dit dans ce texte. Ne crois pas mes paroles, crois ce que dit la Bible. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. On a déjà beaucoup parlé du plan de Dieu, en fait, du plan de Jésus. Mais si on prend le point 2, hein, le plan de Jésus pour notre transformation, je veux quand même qu'on aille un peu plus loin dans son plan. Dans beaucoup de nos traductions, d'ailleurs, on rate un truc vraiment intéressant. Justement, les Bibles blanches, on le rate un peu. Il y a, en fait, deux fois le mot « manifestation » ou « révélation ». La vie chrétienne, si tu veux, c'est une vie entre deux apparitions de Jésus. Tout comme si on avait été cet esclave racheté. On a vu le roi venir nous racheter. Il nous ramène dans son château et on est en train de se préparer et on va le revoir une deuxième fois au grand repas, à la grande fête. Ici dans le texte, verset 11, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Première apparition. Quand Jésus est devenu homme, il nous a montré la grâce de Dieu. Il nous a montré un Dieu qui ne se contente pas de nous traiter comme on le mérite, il nous traite comme on ne le mérite pas, en punissant son Fils pour nos péchés et en donnant la vie parfaite de Jésus à ceux qu'il rachète. C'est immérité, c'est la grâce. La grâce a été révélée. Jésus, en venant la première fois, nous a révélé la grâce de Dieu. Et cette grâce est une enseignante. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant quoi ? La bienheureuse espérance, la manifestation. Dans le grec original, la révélation. On a le même mot qu'au verset 11. La révélation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La vie sur terre est une vie entre deux manifestations de Jésus, deux révélations, deux apparitions de Jésus, entre sa première et sa seconde. Il n'y en aura pas d'autre. On attend qu'il revienne et on veut être prêt. On veut être prêt. Et ce n'est pas être prêt qu'il nous pardonne parce qu'on aura fait des efforts. C'est il y aura un grand festin et on veut être habillé, on veut être revêtu, on veut être lavé, on veut être purifié, on veut avoir la disposition d'un sujet du roi Jésus. Avoir déjà maintenant l'attitude que nous aurons quand on sera entièrement purifié, entièrement débarrassé du mal, du péché, de nos mauvais désirs. J'espère que tu vois comment c'est radicalement. Le christianisme a toujours été radicalement différent de toutes les philosophies, de toutes les religions. Parce qu'il a une vision beaucoup plus négative de l'homme. On est bien pire qu'on le pense. Il a une vision bien plus grande de Dieu. Il est bien plus grand et plus compatissant envers notre faiblesse. Il vient vers nous parce que nous ne pouvons pas aller vers lui. Nous sommes entre deux manifestations. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ce test qui tournait pas mal sur Internet et chaque année ça revient parfois un peu. C'était le test des chamallows. Vous avez déjà vu les petits enfants de 4-5 ans on leur met dans une pièce où il n'y a rien à faire et on leur met un chamallow sur une assiette devant eux et on dit bah écoute, tu peux avoir le chamallow maintenant, je vais sortir moi et je reviens dans 5 minutes et si tu n'as pas mangé le chamallow par contre, je te donne un deuxième et tu auras le droit de manger deux chamallows. Et les 5 minutes semblent une éternité pour les enfants qui essayent de résister à la tentation. C'est dingue de les voir et ils sont en train de se tortiller dans tous les sens, ils sont en train de se masquer, se cacher les yeux pour pas voir le chamallow, ils sont en train de se mettre sous la table pour pas le voir. Et c'est 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais pas, mais c'est rien. C'est rien. Et c'est super long. C'est pareil. T'es 80 ans, t'es 90 ans sur la terre. C'est rien. C'est rien. C'est ça. Et on sait que Jésus revient. Et on va regretter aucun de nos sacrifices. On va regretter aucune de nos décisions d'être pur, d'être saint, d'être zélé pour le bien. On va regretter aucune décision ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'on a l'impression parfois de faire des sacrifices ? Parce qu'on veut tellement ce chamallow. Parce qu'on veut tellement ce péché. On veut tellement cette chose Et en fait, on se dit, mais peut-être qu'il ne reviendra pas. Peut-être que c'est... Et puis, de toute façon, il me pardonnera. Et on oublie la relation qu'on a avec Jésus. On oublie ce qu'il nous promet. On oublie que ça vaut la peine. Et que c'est court comme attente. On est dans l'entre-deux, entre la première révélation de Jésus et la seconde. Donc notre espoir, c'est vraiment qu'il vienne, qu'il ouvre cette porte, qu'on le voit et que tout soit terminé et qu'on soit enfin purifié, enfin débarrassé de nos mauvais désirs qui nous tentent, moi le premier, tous les jours de notre vie, tous les instants de notre vie. Parce qu'il y a les péchés qui sont ostentatoires, mais il y a tous les mauvais désirs de notre cœur qui nous forcent à donner des fausses apparences de qui on est, qui veulent qu'on trouve notre identité dans le regard des autres et donc on essaye de se présenter comme mieux qu'on est vraiment. C'est ça qui nous pousse à la médisance. C'est plein de mauvais désirs en nous tout le temps qui sont en train de nous tenter de prendre ce péché sur cette assiette devant nous qui est là seulement 5 minutes. Et donc, le verset 1, c'est bien, on attend notre bienheureuse espérance. Et je ne sais pas si ça t'aide, si tu as moins de 15 ans et que tu es un mec, peut-être que ça ne te parle pas encore, mais pour un mariage, beaucoup, beaucoup de jeunes mariés ou de futurs jeunes mariés font plein de soins corporels, vont faire très gaffe à leur ligne et tout ça, en vue de ce mariage. Elles se brossent les dents avec autre chose peut-être, mais bref, pour cette photo de mariage, pour ce moment-là, on fait tellement d'efforts. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui te parlent plus, où tu fais tellement d'efforts en vue de. Et en tant que chrétien, il n'y a rien qui vaut plus ton espérance, ta confiance, tes attentes, que le retour de Jésus. Où enfin, on va vivre dans un royaume comme il devait vraiment l'être au tout début, quand il nous a créés, quand il a créé la terre, quand il a créé les premiers êtres humains. Ce sera un monde avec tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'on aime le plus, sans aucun péché. On ne peut pas imaginer, parce que depuis le premier jour de notre existence, on a toujours connu un monde qui avait été tordu par le péché. Et juste dernière remarque sur le plan de Jésus. Le plan de Jésus, c'est bien notre transformation. Il faut pas qu'on oublie ça, et c'est très facile de l'oublier. Mais la puissance de cette transformation ne vient pas par un désir d'être acceptable aux yeux de Dieu, mais par une réaction joyeuse à la grâce de Dieu. Et c'est bien ce qu'on a lu, hein, que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Et j'aimerais tellement que ce soit le cas pour nous tous, que la grâce soit un facteur de motivation plus puissant que le légalisme. Moi, je ne sais pas vous, hein. Je suis à la fois un peu admiratif, mais souvent très juste dégoûté de voir que les témoins de Jéhovah sont si zélés pour tous les jours, faire du porte-à-porte et des marchés, alors qu'ils ont comme motivation du légalisme. Et je me dis, mais punaise, je me sens moins motivé qu'eux, alors que j'ai une bien plus grande nouvelle qu'eux. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette remarque. Il y a plein de religions très zélées. Et le secret, ce n'est pas de sortir le fouet et de commencer à utiliser le même facteur de motivation qu'eux. Le secret dans ce texte, la puissance dans ce texte, c'est de contempler, d'admirer cette grâce qui nous enseigne et ce retour de Jésus qui fait notre joie, qui est quelque chose qu'on attend avec impatience. Cette grâce qui a été manifestée la première fois et ce retour glorieux de Jésus la seconde fois sont les facteurs qui devraient bien plus nous motiver et ce sont les seuls facteurs de motivation qui devraient être premiers. C'est vraiment les facteurs premiers dans la vie du chrétien. La grâce de Dieu nous enseigne. Et donc on arrive au troisième point, des instructions spécifiques pour notre transformation. Et ça va être très court parce qu'on va juste prendre les deux premières catégories de personnes dans Tite 2, les premiers versets. On va prendre les vieillards et les femmes âgées. Mais vous allez voir que c'est déjà aussi en train de s'adresser aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Parce que, Dieu voulant, tu vas un jour vieillir. Donc regardez avec moi verset 2. Je vais reprendre verset 1, 2 et 3. Ouais, j'entends certains qui disent « j'ai pas envie ». Et je te comprends bien. Ça fait peur parfois. Surtout quand on nous explique qu'est-ce que c'est la vieillesse. Waouh. Mais on va en reparler. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à... Donc là, on a une traduction qui fait des phrases différentes. On va s'arrêter à « ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes ». Elles enseigneront aux jeunes femmes. Et on va prendre les jeunes femmes dans le message suivant. Donc, les vieillards, les personnes âgées en français correct. Les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Donc, c'est solide dans la foi, solide dans l'amour, solide dans la persévérance, hein, si vous regardez le texte. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire ici ? Est-ce que c'est tout ce que doit faire un vieillard ? Non. D'ailleurs, aux femmes âgées, elles ne doivent pas être esclaves de la boisson. Ça ne veut pas dire que si ce n'est pas mentionné pour les hommes âgés, qu'eux, ils ont le droit d'être alcooliques. Ouais, alors sobre, effectivement, peut être utilisé pour l'alcool. Mais puisque Paul s'en sert dans l'autre liste, pour les anciens, plus dans une attitude, parce qu'il a un autre mot pour l'alcoolisme. Beaucoup de traducteurs ne parlent pas de vin, effectivement, ici. Ils ne le mettent pas en premier. Donc, on ne prend pas beaucoup de temps dessus. On va revenir, bien sûr, dans deux semaines dessus. Mais moi, je voudrais tous nous exhorter à travers ce texte. Hein. Nous allons tous, un jour, devenir des personnes plus âgées que nous l'étions. Je sais que c'est très basique. C'est comme le sel salé, l'eau mouillée. Hein. Mais regardez les hommes et les femmes que nous admirons, qui sont plus âgés. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour ressembler à cette personne demain ? Et de nouveau, c'est par la grâce de Dieu qui agit en nous qu'on peut vivre cette transformation. Mais à aucun moment dans la Bible y a-t-il un enseignement qui dirait que c'est uniquement par Dieu. Il utilise nos efforts. Il utilise nos plans, nos résolutions. Il y a un livre sur les résolutions d'ailleurs, dehors. Il utilise notre volonté. Et est-ce que tu as des domaines dans ta vie aujourd'hui où tu as honte ? Que si ça se savait, cette zone d'ombre dans ta vie, si ça se savait, tu as honte, tu aurais honte. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour, par la grâce de Dieu, en être débarrassé? Ne plus avoir ce comportement. Être transformé. Pour que dans 20 ans, dans 30 ans, tu ne l'aies plus. Parce qu'une des choses qui est inquiétante, et ça c'est pas forcément ce texte qui le dit, mais une chose qui est inquiétante, c'est qu'avec la vieillesse, nos forces s'accentuent et nos faiblesses s'accentuent. Parce qu'on a moins de contrôle, parfois. Et donc, je pense qu'on connaît tous des petits vieux qui sont des pervers. Il y en a un qu'on fréquente, qui est connu à Pont-de-Chéry, par exemple. Ben, probablement, il cachait bien mieux ça quand il avait 20 ans, 30 ans. Mais avec l'âge, tes travers, mes travers vont s'accentuer. Est-ce que nous sommes conscients qu'on veut devenir sobre, respectable, réfléchi, solide dans la foi, l'amour et la persévérance pour qu'on puisse être un modèle pour les autres. Clairement, l'homme est appelé à être un modèle pour les autres. Si ce n'est pas dans ce texte, on le voit dans Deutéronome 6, où le père de famille est censé transmettre la doctrine, l'évangile à ses enfants. Il est censé enseigner qui est Dieu à ses enfants. Mais si toi-même, tu ne montres pas une vie qui montre Dieu, comment veux-tu en parler de lui ? À la Subique de Genève, on avait pas mal de profs, parce que c'est un système qui, tous les semaines, on a un, deux ou trois profs qui sont nouveaux. Et c'est intéressant comme expérience. On voit beaucoup de profils différents, pas mal de personnes âgées qui viennent enseigner, qui sont en fin de carrière, tout ça. Il y a quand même des profils différents. On essaie de les respecter tous, Mais on voit des différences entre ceux qui se prennent sages, qui donnent des apparences de respectabilité, et ceux qui le sont vraiment. Je pense qu'on connaît tous ça. Il y a un monde entre l'apparence de respectabilité et la respectabilité. Et je suis en train de méditer là-dessus, genre, c'était des hommes de prière. Ceux qu'on admirait étaient des hommes de prière. On savait qu'ils priaient pour nous. L'un d'entre eux, on savait qu'ils nous connaissaient tous par nom, très très vite. Pourquoi ? Ça faisait des mois qu'il priait pour nous avant son cours. Il connaissait encore tous les anciens élèves, et donc avec nous, il pouvait dire « Ah oui, mais ton oncle était là, et comment vont ses trois enfants, tout ça ?» Et il connaissait les prénoms des enfants. Je dis, mais comment il fait ça ? Homme de prière. Il prenait des nouvelles et il priait pour eux depuis des années. Il y avait une écoute aussi. Je pense que chaque culture a ses critères pour ce qui est respectable peut-être, mais aujourd'hui, on ne veut pas qu'une personne âgée vienne nous dire directement ce qu'il faut faire. Donc on veut être écouté, mais effectivement, la jeune personne doit ensuite avoir l'humilité de poser des questions, parce qu'il y a beaucoup à apprendre des personnes âgées qui ont de l'expérience. Et on va venir là-dessus la semaine prochaine, dans 15 jours, que c'est notre travers de nous les jeunes. On ne va pas rechercher la sagesse des personnes âgées. Mais est-ce qu'on est déjà en train de savoir écouter et de savoir parler quand la personne veut des conseils, quand la personne veut savoir comment on ferait? Et j'espère que de plus en plus, nous, on va les demander comment tu ferais, parce que nous ne savons pas tout. Donc, messieurs, aspirons à être des modèles, s'il vous plaît. Pas pour gagner le salut, à aucun moment, pour gagner le salut, mais parce que tout t'a été donné pour être transformé. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir changer. Et j'espère que si tu as 30 ans, d'ici 40 ans, d'ici 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu pourras dire « J'aime Jésus plus aujourd'hui que je l'aimais quand j'avais 30 ans. Je prie plus aujourd'hui. Je communie plus avec mon Sauveur aujourd'hui que quand j'avais 30 ans. J'aime parler de Jésus autour de moi plus aujourd'hui. J'ose plus aujourd'hui qu'à 30 ans. J'aime plus les gens aujourd'hui qu'à 30 ans. J'espère qu'on pourra tous dire ça. Parce que parfois c'est vrai, hein, ça fait peur de se dire si mes fautes aujourd'hui, si mes travers aujourd'hui, si mes faiblesses devraient être amplifiées dans 40 ans, qu'est-ce que je deviendrai ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour, par la grâce de Dieu, être transformé et ne plus être celui que tu es aujourd'hui ? Et pour les femmes âgées, on va aller vite. Mais le texte dit « servante de Dieu ». Beaucoup de traductions parlent d'un extérieur qui convient à la sainteté. Dieu t'a transformé, mais est-ce que ton extérieur, est-ce que tes apparences, est-ce que tes actes reflètent cette sainteté ? Tu es une servante de Dieu. Tu es au service de l'empereur de l'univers. On ne peut plus se comporter comme on se comportait avant. Et j'espère que tu ne te désires plus. Que tes désirs sont en train d'être transformés, que tu veux te comporter comme un sujet de l'empereur. Médisantes, elles ne doivent pas être médisantes. Et il y a un spécialiste, Knight, il s'appelle, qui a mentionné quelque chose. C'est vrai que dans la Bible, ce péché est souvent lié aux femmes, la médisance. Mais je trouvais intéressant ce qu'il dit. C'est un péché qui guette ceux qui ont à cœur les personnes en particulier. C'est un peu le revers de la faiblesse. Les femmes, de manière générale, si on veut faire une généralisation, c'est vrai, sont très relationnelles. Elle s'intéresse aux êtres, elle s'intéresse aux personnes. Et le danger, c'est qu'on sait des choses et ensuite on peut s'en servir parce que dans notre péché, dans notre faiblesse, on va utiliser ces choses qu'on sait ou ces choses qu'on a supposées pour paraître intéressante, pour paraître intelligente, pour paraître mieux qu'on est vraiment. Et c'est un reflet, ça montre hein, qu'on n'a pas encore complètement compris l'Évangile et qu'on a besoin du regard des copines, du regard des autres, pour se donner une bonne image, pour être bien. Elles ne doivent pas être esclaves de la boisson, je pense que c'est assez clair, je vais terminer avec, elles doivent faire tout ça afin d'enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et juste dernière note là-dessus, avant qu'on conclue, j'espère que tu vois que l'amour, ça s'apprend. On a dit que la Bible vient corriger, Dieu vient corriger nos idées, vient corriger nos a priori, vient corriger tous nos préconçus. Et là, il y en a un énorme dans la vie en France, le coup de foudre est partout. Essaye de regarder un film pour femmes qui n'a pas un coup de foudre. Je trouve le mot français, anglais, c'est chick flick. C'est tous ces films, comme la littérature féminine, les films qui sont des films romantiques. Le coup de foudre est partout. Alors que Dieu nous dit que l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Est-ce que tu le crois? Mais j'espère que tu vois combien c'est une bonne nouvelle. Parce que dans tes difficultés actuellement, dans parfois ton dégoût vis-à-vis de ton conjoint, tu peux apprendre à l'aimer. Ça s'apprend. Et il faut qu'on soit des modèles dedans pour qu'on puisse l'apprendre à la génération suivante. Et donc, de la même façon, mesdames, j'espère que tu aspires à aimer ton mari plus dans 40 ans que tu l'aimes aujourd'hui, et ça commence aujourd'hui. J'espère que tu aspires à aimer Jésus plus que tu l'aimes aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, par contre. Et dans tous nos domaines, ça commence aujourd'hui si dans 40 ans, tu veux pouvoir dire « Jésus m'a transformé ». Et on termine. En conclusion, je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on a commencé au verset 11. Parce que notre cerveau de français pense qu'on est bien pire, bien moins pire que Dieu nous dit. On a du mal à comprendre. Dès qu'on lit des instructions comme ça, moralisatrices, on pense, oui, ok, c'est le christianisme. Non, c'est pas ce que tu as pensé lire. Il faut commencer avec le verset 11 pour voir que c'est la grâce de Dieu, son pardon immérité, son œuvre de grâce dans ta vie qui nous donne envie de changer, qui nous donne la puissance pour être transformé. Et à aucun moment est-ce que c'est parce que tu as changé qu'il t'a racheté. Et ça va être la tentation de tous nos cœurs, tous les jours, de commencer à se reposer de nouveau sur ce qu'on fait, plutôt sur ce que Jésus a fait pour nous et ce que Jésus a promis en disant qu'il allait revenir et qu'on allait pouvoir le voir dans toute sa gloire, dans son royaume. Donc j'espère que tu sens combien Dieu veut pour notre bonheur, notre transformation. Mais il propose une transformation qui n'est comme aucune autre philosophie, comme aucune autre religion. C'est une transformation qui est une réponse à sa grâce, qui est une réponse à son amour, qui est une réponse à ce que lui, il a fait en Jésus-Christ par grâce. Et si tu ne crois pas ça, si tu n'avais jamais entendu parler de ça, s'il te plaît, sois réconcilié avec Dieu. Confesse que tu es cet esclave d'un bourreau, esclave dans la boue. Tu as un désir, on l'a tous, ce désir de vivre des vies bien, de vivre dans la pureté. On a ce désir, mais tu vas en être incapable tant que Jésus ne t'a pas lavé. Tu vas être incapable tant que tu n'as pas cru que Jésus était mort pour te racheter de tes péchés. Et donc, crois en lui. Crois en lui. Et si tu veux m'en parler après, viens me voir. Avec plaisir, je te parle de ce Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Je vais prier pour nous. Père, tu mets un tel accent sur notre transformation et on veut être fidèle. On veut répondre présent à ton exhortation, à ce qu'on progresse, à ce qu'on grandisse, à ce qu'on soit transformé, à ce qu'on t'aime de plus en plus. Mais s'il te plaît, permets qu'aucun d'entre nous ici ce matin inverse notre transformation et ta grâce et soit perdu éternellement. S'il te plaît, sauve-nous de nos faux plans de salut. Sauve-nous, s'il te plaît. Et Père, tu vois ce que tu as mis sur le cœur de chacun par ton Saint-Esprit, là où nous devons être transformés, là où ce n'est pas tolérable qu'on continue dans cette attitude, dans ce péché. S'il te plaît, Père, fais-nous la grâce, le cadeau de nous donner la force, de nous donner les amis, de nous donner le plan, la volonté pour être transformés, être changés. Et s'il te plaît, fais-nous une église pleine de personnes qui sont sobres, respectables, fort dans l'amour, dans la foi, dans la persévérance. S'il te plaît, fais de belles choses dans nos vies. Et permets qu'on soit bien plus motivé de te faire plaisir, de répondre à ton exhortation, que toutes les religions autour de nous qui agissent par l'égalisme. Donne-nous un amour et un zèle pour toi, s'il te plaît. Amen.